La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce moment. Et nous allons avoir une présentation qui, comme toutes les autres, a son importance dans ce co-meeting. Et nous allons considérer le sujet d'une œuvre organisée. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir prier avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à cette heure. Et nous aspirons à acquérir une meilleure compréhension du thème de ce co-meeting. Et à être des ouvriers pour toi, à réaliser l'ampleur de la tâche ainsi que ce que cela nécessite. Alors, accorde-nous de pouvoir, eh bien, œuvrer comme tu l'entends et que ainsi ta volonté soit faite dans notre vie, chacune de nos vies et au sein même de ton peuple. Veuille disposer les cœurs à pouvoir recevoir ce message et bénis ton serviteur afin qu'il soit ton instrument et que ton nom soit glorifié au-dessus de toutes choses. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le verset de base et thème du co-meeting est Jean, chapitre 9, verset 4, vous le connaissez, où Jésus déclare, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Ok? Jésus nous dit qu'il faut, accomplir les œuvres. Il faut œuvrer, travailler avant que la nuit n'arrive. L'Écriture nous dit en Romains, chapitre 12, verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres. » D'accord? Donc, je ne suis pas le seul à croire en Jésus, et toi non plus, ok, il y a plusieurs, ok, et cette multitude de croyants, compose le corps, d'après ce que nous dit la Bible, le corps du Christ, ok, mais je vous pose une question, ici, on emploie le corps humain comme étant un symbole du corps du Christ. Ok, mais est-ce que mon corps se met à digérer dans le vide? Est-ce que mon estomac, je veux dire, se met à digérer avec rien dedans? Est-ce que mon estomac lâche des sucs gastriques alors qu'il n'y a rien dedans? Non. Ok, vous voyez où je veux en venir? En fait, pour que mes sucs gastriques puissent fonctionner, il faut d'abord que ma main prenne la nourriture, qu'elle la porte à ma bouche, ok. Ensuite, j'ai une mâchoire, ok. Nous avons une mâchoire. Par le biais des dents, la mâchoire, écrase la nourriture. Il y a la salive qui rentre en action, qui attribue des enzymes. Des enzymes sont attribuées pour que justement, quand cela va rentrer aller dans l'œsophage et arriver dans l'estomac plus tard, eh bien, le processus de digestion pourra s'enclencher et les sucs gastriques seront lâchés de manière à ce que, eh bien, par la suite, notre corps puisse assimiler les nutriments. Okay? Donc, le corps humain que nous avons est un corps qui est organisé, en fait. Vous comprenez? Chaque organe a sa fonction et tout est dans l'ordre. D'accord? Et voyez-vous, tout comme notre corps est ordonné, organisé, il fonctionne en harmonie, eh bien, l'œuvre de Dieu aussi doit être organisée. Dans l'ouvrage « Le ministère évangélique » à la page 21, paragraphe 3, nous lisons que « Il faut que la lumière de la parole de vérité brille partout avec éclat pour que les cœurs soient réveillés et changés. L'évangile doit être prêché dans tous les pays. Que les messagers de Dieu travaillent en tout lieu, auprès et au loin, agrandissant sans cesse la vigne du Seigneur. Qu'ils le fassent pendant qu'il est jour, car la nuit vient où nul ne pourra travailler. Le Sauveur crucifié doit être prêché aux pécheurs et cette vérité retentir à leurs oreilles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Il faut organiser les églises et en mettre les membres au travail. Lorsque les ministres de l'Évangile iront de l'avant, le cœur rempli de zèle et d'amour, les églises se réveilleront car chacun de leurs membres sera saisi d'un sentiment d'émulation en constatant le succès des prédicateurs. Donc, notez ici que dans cette déclaration, la messagère fait référence à notre texte de base qui est Jean 9, verset 4, en parlant de l'œuvre, d'accord? Et elle nous fait comprendre que cela doit être organisé, d'accord? Donc, c'est véritablement en rapport avec le thème de ce comité. Mais alors, l'organisation, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire? Voyez-vous, Jésus nous dit je pense que vous connaissez ce passage auquel je vais juste faire allusion, en Jean 4, verset 24, il nous dit que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. D'accord? Et voyez-vous, de la même façon qu'il est vrai que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, eh bien, il est tout aussi vrai qu'il doit être servi avec ordre et dans l'ordre. En effet, en 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40, 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40, il nous est dit « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Okay? » Et à la fin, il dit « Que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. » Okay? Au verset 40. Donc, dans le contexte de l'église, d'accord, de l'œuvre de Dieu, du chant. Mes amis, Dieu doit être servi avec ordre et dans l'ordre. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, en fait, du désordre. Celui qui a créé le corps humain et qui l'a créé en fonctionnement, c'est le même Dieu, en fait, qui est à la tête de son Église, d'accord, et qui œuvre pour son Église. C'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas désordonné. Et il n'est pas non plus l'auteur du désordre, de la désunion, de la discorde ou de la confusion. Par conséquent, la véritable adoration de Dieu ne résultera pas en un désordre quelconque, car Dieu ne prend pas plaisir dans une église dont l'adoration est caractérisée par le désordre. Et voyez-vous, nous allons établir un autre point maintenant, avec acte 2, versets 46 et 47. Acte 2, 46 et 47, où il nous est dit « Et ils étaient tous les jours assidus au temple, d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. » D'accord? Après avoir attiré et sauvé une âme, Jésus l'a conduit, d'après ce qu'on lit ici, dans son église. Donc, Jésus sauve quelqu'un et ensuite, il conduit cette personne qu'il a sauvée dans son église. D'accord ? C'est lui qui ajoute à l'église. Et remarquez, on va le noter plus tard, on va revenir là-dessus, mais on va le souligner ce point-là. Mais savez-vous comment Jésus, notamment, il fait rentrer quelqu'un dans son peuple? Tout du moins, qu'est-ce qu'il a demandé pour qu'une âme qu'il a sauvée puisse rentrer dans son peuple? Ok? Matthieu 28, verset 19, lisons le début. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voilà la première étape. Okay? De faire de toutes les nations des disciples. Ok? Dites-moi, une question que je vous pose. Est-ce qu'un disciple peut être indiscipliné? D'accord. Qui dit disciple, dit discipline. D'accord? Donc, il faut en fait enseigner la discipline du Christ, d'accord? De manière à ce que la personne qui souhaite suivre le Christ puisse connaître la discipline du Christ, d'accord? Et être discipliné. Question. Est-il possible qu'après avoir sauvé l'âme d'une vie indisciplinée et désordonnée par le péché, Jésus la conduise dans une église où la discipline et l'ordre sont absents? Certainement pas, mes amis. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais cela a été écrit il y a fort longtemps, au tout début du christianisme, à la fin des temps, c'est pas dit que ça soit encore valable. Ça peut être temporaire, comme certaines choses d'ailleurs. Est-ce que c'est temporaire, l'organisation? Ou est-ce que c'est censé être valable jusqu'à la fin des temps? Est-ce qu'à la fin des temps, l'évangile doit être prêché? Première question. Oui, oui. D'accord. Et je pose la question car, mes amis, voyez-vous, aussi longtemps, en réalité, aussi longtemps que l'évangile doit être prêché, sa proclamation doit être organisée. Okay? Or, nous avons un message prophétique pour la fin des temps. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et j'y place deux versets, le début et la fin. Verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant quoi ? L'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. » D'accord ? Et à la fin de ce triple message, donc la dernière partie du troisième message du troisième ange, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, nous voyons que ce triple message, c'est l'évangile éternel apporté à toute nation, tribu, langue et peuple. Et au final, il en résulte un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord? Ainsi, l'organisation de l'œuvre est valable jusqu'à la fin de la proclamation du message du troisième ange. Et la messagère nous confirme ça dans le ministère évangélique, page 475, paragraphe 3. Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Les étoiles sont soumises à des lois et agissent l'une sur l'autre pour accomplir la volonté de Dieu, cédant dans leur commune obéissance à la loi qui les régit. De même, pour que l'œuvre de Dieu progresse sainement et solidement, le peuple du Seigneur doit marcher en bon ordre. À son époque, dit-elle, il y avait des gens qui disaient que non, mais à mesure que la fin des temps approche, l'organisation, c'est pas important, on peut faire chacun fait sa petite affaire, on n'est pas. Regardez. La Bible est claire. Est-ce que les prophéties vont dans le même sens, mes amis? Et que se passe-t-il quand on rejette l'évangile éternel? Que se passe-t-il quand on rejette l'évangile éternel? Le message du deuxième ange nous concerne. Elle est tombée, Babylone, la grande. C'est le message qui concerne ceux qui ont rejeté le message du premier ange. On devient Babylone, mes amis, quand on rejette l'évangile éternel. Et aussi, bien évidemment,
Cela va de soi quand on rejette l'organisation qui doit caractériser la proclamation de l'évangile éternel. Okay? Et ça encore, la messagère nous le confirme dans The Review and Herald, August 27, 1861, paragraphe 1, article C. Il m'a été montré que certains craignaient de devenir Babylone s'ils s'organisent. Mais les églises du centre de New York ont été de parfaites Babylone, à savoir confusion. Et maintenant, à moins que les églises ne soient organisées de manière à pouvoir appliquer et faire respecter l'ordre, elles n'ont rien à espérer pour l'avenir. Elles doivent se disperser en fragments. C'est clair. Et pourquoi? Pourquoi, je dirais, devient-on Babylone? Qu'est-ce qui fait que s'il n'y a pas d'organisation, en fait, l'Église devient Babylone, en fait? Eh bien, dans Christian Experience and Teachings on Ellen G. White, à la page 195, paragraphe 2, nous lisons que, au fur et à mesure que notre nombre augmentait, suivez ça, hein, il devenait évident que sans une forme d'organisation, il y aurait une grande confusion et que l'œuvre n'aurait pas pu se poursuivre avec succès. OK? Donc là, on parle de, au fur et à mesure que le nombre des croyants augmente. OK? Afin de pourvoir, dit-elle, au soutien du ministère, premièrement, de poursuivre l'œuvre dans de nouveaux champs, de protéger les églises et le ministère des membres indignes, de gérer les biens de l'Église, de publier la vérité par la presse ainsi que de nombreuses autres raisons, l'organisation était indispensable. Donc, voilà mes amis, ce qu'il en est. Nous voyons ici que l'organisation est quelque chose de véritablement nécessaire et même d'indispensable, car autrement, on déplairait à Dieu. Tout autant que si on apostasiait de par la croyance en de fausses doctrines. Et cette présentation est donnée parce qu'elle est en rapport avec, comme nous l'avons vu au départ, le sujet de ce committing, mais également, et Dieu a bien fait, je dirais les choses, c'est qu'en ce moment même où nous parlons, il y a une quantité de personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux sur l'apostasie des organisations religieuses existantes, très précisément des dénominations existantes, et en particulier une dénomination qui prétend croire au retour de Jésus et observer sa loi, d'accord, et qui est très clairement en train d'afficher son œcuménisme, très clairement en train en ce moment, de par ses ministres, eh bien, de montrer que ils sont sur la bonne voie pour retourner à Rome, d'accord? Et donc, il y a une quantité de personnes qui, en ce moment même, d'accord, réalisent qu'ils ne peuvent plus rester, d'accord, dans cette organisation et qui veulent rejoindre la vérité présente, d'accord? Ils veulent rejoindre le message de la vérité présente où l'évangile éternel est prêché sans compromis, ok? Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, en fait, lorsque on est dans cette situation-là, on a tendance à croire que ce n'est pas nécessaire d'être organisé. Alors que si, en fait, on vient de le voir. Donc, voilà un petit peu le contexte. Maintenant, avançons un peu. L'organisation dont on parle ici, en quoi cela consiste? Ok? Eh bien, commençons avec le commencement. Rendons-nous en Marc, chapitre 3, versets 13 et 14. Marc, chapitre 3, versets 13 et 14. Il monta ensuite sur la montagne, à savoir Jésus, et appela ce qu'il jugea à propos. Et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher. D'accord ? Ici, le mot établi, okay, peut être traduit par ordonné ou même consacré, d'accord? Ils ont été établis pour aller prêcher. Donc, ici, on a là la première étape de l'organisation de l'Église chrétienne, ok? Et la message nous le confirme dans Conquérant Pacifique à la page 20, paragraphe 1. C'est à la consécration des 12 que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son œuvre ici-bas. Donc, la première étape de l'organisation de l'Église du Christ, c'est la consécration de ministres. OK? Ensuite, cette organisation a été améliorée. OK? Elle a été améliorée. Notamment avec ce qu'on peut lire en Actes 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il se leva tout du moins un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent « Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous dont on rend de bons témoignages, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. » Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Et notez bien ça, le ministère de la parole. OK? Poursuivons verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. D'accord? Et là-dessus, la messagère va nous dire à la page 78 du Conquérant Pacifique, convoquant une assemblée de croyants et conduits par l'Esprit, ils dressèrent un plan pour une meilleure organisation. D'accord? Donc, l'œuvre avait déjà été, on avait déjà commencé à organiser l'œuvre. Christ avait consacré 12 pour qu'ils puissent prêcher le message, de manière à ce que la parole puisse être semée. D'accord? Mais ce n'était pas tout. D'accord? Avec la consécration des diacres, eh bien, il y a eu une meilleure organisation, d'accord? Elle a été améliorée. Et donc, il dressait un plan pour une meilleure organisation de toutes les activités de l'Église, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que le ministère de la parole, mais il y a d'autres activités, choses à accomplir dans l'Église, ok? Dans l'œuvre. Le moment était venu, déclarait-il, où les conducteurs spirituels devaient être relevés de cette répartition de secours aux pauvres et d'autres tâches semblables. Ils pourraient ainsi plus librement continuer à s'adonner à la prédication, c'est-à-dire au ministère de la parole, d'accord? Et pas être surchargés avec des tâches qui ne concernent pas le ministère de la parole, ok? On suivit ce conseil et par la prière et l'imposition des mains, sept hommes furent choisis et solennellement consacrés à leur devoir de diacre. D'accord? Donc, avec les diacres, on a une organisation qui est améliorée. OK? Il y a un modèle. D'accord? Il y a un modèle. Un modèle dans la parole. On a Tite 1, verset 5, nous dit « La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville comme je te l'ai ordonné. » D'accord? Et vous pouvez comparer avec Philippiens 1:1, on voit que c'est le même principe aussi avec les diacres. Donc, là où il y a des croyants qui sont assemblés, okay, il faut qu'il y ait l'organisation aussi qui soit établie. Et là-dessus, ou en rapport avec ce passage-là, j'ai dit bien en rapport avec ce passage-là, nous pouvons lire dans Conquérant Pacifique, page 80, paragraphe 2, l'organisation de l'Église de Jérusalem devait servir de modèle à celle de toutes les églises où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'Évangile. OK? Donc, je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer à le lire. Mais ce qu'il y a ici, c'est que l'organisation qui avait été établie à Jérusalem devait servir de modèle, en fait. D'accord? Ça veut dire qu'il devait y en avoir qui devait être chargé de l'enseignement et d'autres qui devaient être mis pour, je vais dire, les autres besoins de l'Église, d'accord? Cela devait être pris comme modèle, ok? Et très précisément, Philippiens 1:1 nous en parle. On nous parle des évêques, donc les responsables, on va dire spirituels, et les diacres, d'accord? Et après cela, il y a le perfectionnement. Le perfectionnement, ok? Le perfectionnement, on peut le lire en Actes 15, versets 1 et 2. Actes 15, versets 1 et 2, où il nous est dit, « Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Une grande contestation et une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question. Donc, il y a eu, à l'endroit où se trouvaient Paul et Barnabas, okay, qui n'étaient pas à Jérusalem, des personnes qui sont venues enseigner des choses. Et il y a eu une contestation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église a envoyé deux délégués, à savoir Paul et Barnabas, pour aller voir les frères à Jérusalem, de manière à ce qu'ils puissent régler cette question, pour que l'Église, à cet endroit, ainsi qu'en Judée, eh bien, ils aient la même croyance, en fait, ok, et pas qu'il y ait une différence d'enseignement. La Message nous dit à ce propos, Conquérant Pacifique, page 80, paragraphe 3, plus tard, bon, c'est pas tout de suite, mais plus tard, l'histoire de l'Église primitive nous apprend que lorsque de nombreux groupes de croyants se constituèrent dans différentes parties du monde, on perfectionna encore son organisation afin d'y maintenir l'ordre et l'harmonie. D'accord? Donc, ce perfectionnement-là est là pour maintenir l'ordre et l'harmonie à travers toutes les églises, toutes les parties du champ, en fait. D'accord? Et à la page 84, paragraphe 1, nous pouvons lire également: l'ordre qui fut maintenu dans l'Église primitive permit aux chrétiens d'avancer avec assurance comme une armée bien disciplinée, revêtue de l'armure de Dieu. Les groupes de croyants, bien qu'éparpillés sur un vaste territoire, étaient tous membres d'un même corps. Tous agissaient avec ensemble et harmonie. Quand des discussions s'élevaient dans une église, comme cela arriva plus tard à Antioche et ailleurs, et que les chrétiens ne pouvaient arriver à s'entendre, on ne tolérait pas que la division naisse à cause de ces dissensions. On en référait alors à un conseil général du corps des croyants, composé de délégués nommés par les diverses églises, ainsi que des apôtres et des anciens ayant une direction spirituelle importante. De cette façon, les tentatives de Satan pour attaquer l'Église dans les endroits isolés se heurtaient-elles aux efforts combinés de tous les chrétiens, et les plans de l'ennemi pour disperser et détruire étaient déjoués. Donc, le perfectionnement est là et consiste en fait à maintenir l'ordre et l'harmonie à travers toutes les parties du champ, en fait. Qu'il y ait des connexions, des rapports entre les différentes églises, ok, de manière à ce que, même si je suis dans cette église-là, eh bien, l'autre église, il croit la même chose, on fonctionne pareil, et voilà, c'est homogène, en fait. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à considérer un message antérieur, qui est l'inorganisation, un retour à Babylone certifié. Dans cette présentation, qui est la dernière d'une série sur l'Église, nous avons eu l'occasion de voir beaucoup plus qu'en détail qu'ici, avec beaucoup plus de textes de la Messager notamment et d'historique sur l'adventisme, ce qu'il en est, d'accord? Donc, l'objectif ici n'est pas tellement d'être théorique, mais on va tâcher, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la présentation, d'être pratique, d'accord? Comment pratiquement opérer les choses, d'accord? Donc, pour la présentation beaucoup plus théorique, vous voyez celle-là, elle est plus théorique. Là, on va tâcher d'avoir une présentation qui va être, à partir de maintenant, assez pratique, d'accord? Mais il nous faut quand même définir quelques points. L'Église et le ministère, pour bien cibler, pour bien comprendre, d'accord? Premièrement, au niveau de l'Église, il nous faut avoir une conception et il nous faut clarifier, d'accord? Parce qu'on veut être pratique. Mais pour être pratique, il faut savoir de quoi il s'agit, d'accord? Qu'est-ce que l'Église? Alors, là-dessus, certains diront, ah, c'est le bâtiment. Ok? Les membres qui la composent. Ok. Eh bien, effectivement, l'Église, le mot Église vient de ecclesia, du grec ecclesia, qui signifie en fait assemblée. Et très précisément, un peuple qui est appelé à sortir, d'accord? Donc, ils sortent, mais pour se rassembler, en fait, d'accord? Donc, ecclesia, s'il nous faut résumer, ça signifie assemblée, une congrégation, d'accord? Et c'est un terme qui est neutre, ok? Donc, une assemblée. Très précisément, ici, c'est dans le sens de physique, en fait. Notez-le, c'est dans le sens d'assemblée physique, ok? Comme on est assemblé là aujourd'hui, en fait. Okay? Lisons un témoignage maintenant qui va venir nous permettre d'apporter une nuance et un équilibre même. Manuscrit 60A, 1895, paragraphe 4. Chacun devrait préparer sa lampe. La charge de Paul à Timothée doit être comprise comme étant adressée à chaque membre de la maison et à chaque membre de l'Église. Donc, notez ici que la messagère, elle fait une distinction avec les membres de la maison et les membres de l'Église. Notez ça. Ok, poursuivons. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Toi-même d'abord, puis il y aura une influence sanctifiée dans chaque maison. Ok? La lampe intérieure doit être préparée. Une disposition sera dans l'Église de maison et la même chose sera portée à l'Église assemblée. Ok? Donc, notez que ici, la messagère emploie le terme « église de maison » pour faire référence à quoi, en fait? À la famille, d'accord? Et après, elle fait comprendre que, en fait, les églises de maison vont après apporter leur influence dans l'église assemblée, d'accord? Poursuivons. À votre travail quotidien, vous avez besoin de cette lampe qui brûle pour garder une douce disposition et être prêt à faire le travail essentiel dans votre labeur hebdomadaire. Dieu ne peut accepter le service d'aucune âme qui est liée en soi. À moins que la racine ne soit sainte, il ne peut y avoir de fruits saints. Il doit d'abord y avoir un don de vous-même au Seigneur sans réserve. Okay? Donc, notez le point ici, le point qu'il nous faut retenir ici, c'est que il y a l'église de maison dans le sens qu'elle emploie ici, à savoir la famille, donc les membres de la famille, papa, maman, enfant, etc., okay? Selon la composition de la famille, comment elle est composée. Et cette cellule-là va avoir une influence dans l'Église assemblée. Okay? Et un autre témoignage qui nous confirme ça, mais dans l'autre aspect, et sous l'aspect Église de maison, père, mère, frère, sœur, prenez ce travail ensemble et voyez si l'Église de maison ne sera pas grandement améliorée. D'accord? Donc, ici, on voit que d'après le témoignage, la messagère attribuait le terme église de maison à papa, maman, frère, soeur, etc. La famille, en fait, d'accord? Donc, résumons, il y a les églises de maison, donc les familles, ok, qui composent l'église assemblée lorsqu'ils se rencontrent, ok? Juste un point, il y a une porte d'entrée dans l'église, ok? Et en acte 2, verset 41, on nous dit « Ceux donc qui reçut de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. » Ok, le disciple, c'est la composante même de l'Église, d'accord? C'est ce qui compose l'Église, d'accord? Donc, comment ils ont été ajoutés à l'Église? Par le baptême. C'est très clair. La Bible nous dit dans ce verset-là que, grosso modo, si vous résumez, le baptême, c'est notamment, il n'y a pas que cela, mais c'est notamment la porte d'entrée dans l'Église, d'accord? Donc, quand on fait alliance avec Christ par le baptême, par les eaux du baptême, c'est la porte d'entrée aussi pour devenir membre d'Église, d'accord? Assemblée, très précisément, ok? Donc là, on a clarifié, en tout cas, on a défini la notion d'Église, d'accord? Église assemblée, Église de maison, voilà, ok? Ensuite, clarifions un petit peu le ministère, d'accord? Qu'est-ce que le ministère? Qu'est-ce qu'on entend par le ministère, ok? Eh bien, il s'agit du service, en fait, d'accord? En 1 Timothée 1, verset 12, on nous dit « Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Vous avez vu à partir de quel mot ministère est traduit? Diaconia. Non, diaconia, ça vous dit pas quelque chose? Le diaconat. En fait, il s'agit du service, en fait. Ok? Le diaconat, c'est le service. Donc, le diaconat, c'est le niveau de base, en fait, standard d'entrée dans le ministère. D'accord? Donc, un pasteur est par définition même, à la racine même, il est un diacre. Un ancien, avant même d'être ancien, il est un diacre, en fait. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont dans le ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, etc., avant tout, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont des diacres, en fait. Ils sont tous au service, en fait. Vous comprenez? C'est ça le ministère dont on parle, ok? Et ce même terme-là, je n'aurai pas le temps de vous le faire une étude de ce thème-là, mais il est même attribué à Jésus, en fait, ok? À un moment, diaconia, ok? Donc Jésus était un diacre, il était au service, ok? Donc il faut bien comprendre cette notion-là. Le diaconat ne se limite pas à un balai, à un seau pour venir balayer une salle le vendredi pour préparer le service. Ça, c'est le service dans un sens qui peut s'élargir à différents niveaux, ok? Et la consécration, nous dit la Bible, la consécration est la porte d'entrée dans le ministère, d'accord? Tout comme le baptême est la porte d'entrée dans l'église, la consécration est la porte d'entrée dans le ministère. En effet, en Actes 13, versets 2 et 3, on nous dit « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. D'accord? Donc, c'est à partir de ce moment-là que ici très précisément, Paul et Barnabas sont entrés dans le ministère. La messagerie le confirme à au moins deux endroits. Conquérant Pacifique toujours, page 141, paragraphe 3. Avant d'être envoyés comme missionnaires dans les pays païens, ces apôtres furent donc solennellement consacrés à Dieu par le jeûne, la prière et l'imposition des mains. Ils reçurent ainsi quoi? L'autorité de l'Église, non seulement pour enseigner la vérité, mais pour administrer le baptême et organiser des communautés étant investi du plein pouvoir ecclésiastique. Okay? Et à la page 144, paragraphe 5, elle dit « Paul considéra sa consécration au ministère comme devant inaugurer une nouvelle époque de sa vie. C'est de ce moment-là qu'il fera dater son apostolat dans l'Église chrétienne. » D'accord? Donc, il est évident que c'est la consécration qui est la porte d'entrée dans le ministère. Nous avons ici maintenant clarifié les définitions, d'accord, d'église, vu les différents aspects, ok. Le ministère, séparément, on a défini et vu comment on y entre. Une fois que cela est fait, établissons maintenant les relations entre église et ministère, d'accord. Eh bien, le ministère est l'institution du Seigneur pour édifier son église. Et très précisément, ici, celui de la parole, dont on va voir ici, en Actes 4, versets 11 et 12. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Amen. Donc, le ministère est l'institution, est ce que Christ a voulu, Dieu a voulu, pour édifier son Église. D'accord? C'est l'instrument qu'il utilise, d'accord? Donc, quand on veut séparer le ministère de l'Église, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Juste réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? On est en train de s'opposer à Christ, en fait. Puisqu'il nous dit que c'est ce qu'il a établi pour l'édification du corps du Christ, d'accord? Et pour ceux qui étaient là, si on suivait la présentation sabbat matin, on a vu le peuple du reste, son pasteur et son message. Vous vous en rappelez? D'accord. Je vous renvoie au début de la présentation du matin pour vous rendre compte de ce que je suis en train de dire, d'accord? Alors, Et la messagerie va dans le même sens. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 416, paragraphe 2 et 3. Dieu, écoutez bien ça, Dieu a une Église possédant un ministère divinement institué. Et après, elle cite Éphésiens 4, versets 11 à 15. Ce n'est pas le ministère qui possède l'Église. C'est l'Église qui possède un ministère. D'accord? Donc, c'est lié en fait. C'est lié dans ce sens. D'accord? Et au paragraphe 3, elle déclare « Le Seigneur a des instruments de son choix et une Église qui a survécu à la persécution, qui a traversé la lutte et les ténèbres. Jésus aime son Église et s'est donné pour elle. Il la soutiendra, la purifiera, l'ennoblira et l'exaltera afin qu'elle demeure ferme au milieu de toutes les influences corruptrices du monde. Dieu a désigné des hommes pour veiller avec un soin jaloux, avec vigilance et persévérance, pour que l'Église ne tombe pas dans les pièges de Satan, mais qu'elle résiste et fasse connaître la gloire de Dieu à toute la famille humaine. Il y aura toujours une lutte acharnée entre l'Église de Dieu et le monde. Les esprits et les principes s'affronteront comme la vérité avec l'erreur. Mais dans la crise qui atteindra sous peu son apogée, des hommes d'expérience seront appelés à remplir la tâche que Dieu leur a confiée et ils devront veiller sur les âmes comme devant en rendre compte. D'accord? Donc, je pense que, arrivé à ce stade-là, la relation entre l'Église et le ministère doit être assez claire, en fait. Okay? Elle doit être assez claire. Je pense qu'il serait difficile de, en tout cas, de mieux expliquer ça. Alors, faisons des applications. Maintenant qu'on a simplifié l'explication, qu'on a mieux défini les termes, faisons des applications, notamment dans le contexte actuel. D'accord? Ici, nous avons une assemblée. D'accord? Une assemblée qui est composée, donc on peut dire église, okay, qui est composée de différentes églises de maison. D'accord? Ok? Je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a différentes églises de maison ou groupes, ou missions, etc., qui sont représentées ici. Mais c'est lorsque on est rassemblé qu'on forme l'église assemblée. Ok? Vous comprenez? C'est lorsqu'il y a rassemblement, ok, qu'on forme l'église assemblée. Donc, il y a cette distinction qu'il faut opérer entre église de maison, église assemblée, d'accord? La maison, comme on l'a vu, c'est la famille, ok? L'assemblée, c'est, comme je l'ai dit, quand on est assemblé, ok? Je tiens à préciser que pour ceux qui sont ici, ok, vous n'êtes pas membre, écoutez bien, vous n'êtes pas membre de Préparation de Reste, ok. Préparation de Reste est un ministère que je pense, je crois, certains d'entre vous vous soutenez et qui est au service de votre église de maison, d'accord, et de l'assemblée ici. Présente, d'accord, et des groupes et des missions, etc., d'accord. Donc, ok, voilà, on applique ce qu'on a vu jusqu'ici, ok. Donc là, on a fait le point sur l'Église. Venons-en au ministère maintenant. Il y a une différence entre le ministère Préparation le Reste et le ministère, d'accord. Ce ministère qui organise ce committing n'est pas le ministère mondial, d'accord? Préparation le Reste œuvre en France, ok, en Martinique, en Guadeloupe, dans la francophonie principalement, et tantôt on va rendre des services à l'étranger. Mais l'influence de ce ministère est limitée, d'accord? Ok? Et il est limité parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a d'autres ministères. D'accord? Nous travaillons en collaboration avec Pasteur Alan Stone aux États-Unis, Pasteur Elvis à Curaçao. Et très précisément, à l'heure où nous parlons, les frères et sœurs des Philippines sont plus avancés que nous en matière d'organisation. D'accord? OK? Donc, il y a plusieurs pasteurs aux Philippines, d'après les dernières nouvelles que j'ai reçues, ainsi que... voilà. Donc, il y a aussi le ministère aux Philippines et à d'autres endroits. D'accord? Et prenons un exemple. Est-ce qu'on peut afficher la slide du com meeting là pour voir? Ah, mais non, mais c'est moi qui l'ai. Attends, bouge pas. Non, ça va le faire. Mais effectivement, si tu peux afficher la slide du com meeting. D'accord. Ok. Le flyer. Ok. Ok. Donc, prenons le cas avec le com meeting. Ok. Eh bien, au niveau du ministère, dans ce com meeting, il y a différentes distinctions qu'on pourrait opérer, d'accord? Il y a des ministres qui sont consacrés, d'accord? Donc, pasteur Allen, il y a pasteur Elvis, pasteur Chanson, ainsi que moi-même, d'accord? Et il y a des ministres qui sont stagiaires, d'accord? Donc, on a Michael, on a Ronnie Martin, on a Olivier, on a Jean-Luc, ok? Et Ira qui est au service, qui sert le peuple en tant que sœur qui est au niveau de la santé, d'accord? Mais je parle des hommes ici très précisément, d'accord? Donc, ok. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour, très précisément ici au niveau du ministère de la parole, d'accord? Le ministère de l'enseignement, d'accord? Je parle très précisément. Alors, et donc, lorsqu'il y a dans une église de maison, ok, une difficulté, eh bien, le ministre est chargé de maintenir, je dirais, l'harmonie, le caractère homogène de l'œuvre partout sur le territoire, ok. Et le ministère, je vais étendre ça au ministère, de manière à ce que toutes les églises de maison soient ordonnées et l'idéal de pouvoir être une église assemblée, d'accord? Parce que c'est là, en fait, qu'on peut vraiment organiser l'église au niveau local, d'accord? Quand on parle d'église locale, c'est vraiment des personnes qui habitent dans la même région, en fait, dans la même région et qui s'assemblent, qui se rencontrent, ok? Okay? Donc, à l'heure actuelle, en ce qui concerne la France, à l'heure où je parle, je ne crois pas qu'il y ait, quand je dis je ne crois pas, c'est pour être doux, mais en fait, il n'y a pas d'église locale qui soit organisée, d'accord? Il y a un fonctionnement d'église de maison, d'accord? Qui se rencontre de temps à autre quand on fait les séminaires, etc., d'accord? Mais l'idéal serait, dans la mesure du possible, s'il y a des croyants, des familles qui habitent ensemble côte à côte, de pouvoir justement former justement l'église, de se rencontrer pour travailler ensemble, d'accord? Et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont isolés, peuvent rester rattachés au ministère pour fonctionner voilà, le temps que d'autres personnes puissent arriver de leur côté ou que l'œuvre puisse grandir à ce niveau-là, en fait, d'accord? Conclusion, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mes amis, en tant que peuple, Jésus nous envoie. Jésus nous demande d'œuvrer au travers de la terre entière pour prêcher le message. Et avant que la nuit n'arrive et que ce monde soit complètement dans les ténèbres, eh bien, il nous faut apporter ce message. Et ce message, mes amis, ne sera pas donné dans le désordre. Oh non. La trompette doit sonner avec un son clair. Le témoignage du mouvement, de ce mouvement, doit être clair. Si on permet à des personnes désordonnées de devenir membres d'église, si on permet à des personnes désordonnées de rentrer dans le ministère, c'est Babylone. Donc, il y a un ordre. Il y a un ordre. Okay? Et c'est Christ qui veut cet ordre. Et le message doit être clair. D'accord? Prêché avec clarté, vécu avec clarté, pour que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous pouvons te remercier pour, et nous te remercions en réalité pour ce que tu nous permets de comprendre concernant ton œuvre. Car tu désires que nous soyons, que nous ayons la connaissance de ces choses. Car tu souhaites nous voir avancer dans l'ordre, car tu es un Dieu d'ordre. Alors, tout comme nous devons t'adorer en esprit, en vérité, donne-nous, tendre Père céleste, de pouvoir te servir avec ordre, et que nous puissions réaliser l'étendue de la tâche à accomplir et la nécessité pour ton peuple de pouvoir fonctionner comme un seul homme, de sorte que tu puisses bénir la proclamation de ce message et que ton nom soit glorifié. Alors, fortifie-nous et bénis-nous, nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.